Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Total Camp, le podcast consacré au Barça et au foot en général. On continue notre revue d'effectifs avec le troisième et dernier volet consacré à la défense et on va faire un petit zoom particulier sur le poste d'arrière droit avec Nelson Semedo. Et pour m'accompagner, tel un Quique Setién qui aura trouvé son 11, je reconduis la même équipe que l'épisode précédent avec l'ambassadeur du Joga Bonito, le vice-président de la Peña de Paris. Salut Ayol Four.
Salut à tous.
Ainsi que notre Suisse-Catalan, celui qui est le plus proche de notre Ivan Rakitic chéri. Salut Busquetos.
Bonsoir à tous.
Bon, tu me le dis, hein, si ça t'ennuie que je te compare à Rakitic, mais bon, vous êtes nés en Suisse tous les deux, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse?
Ah non, c'est clairement un honneur.
Alors, Semedo, le poste maudit, le point faible de notre défense, c'est-à-dire notre côté droit. Donc, pour mémoire, Semedo arrive en 2017, après l'échec d'Alex Vidal, la blague Douglas... Et pas de Massian crédible pour occuper le poste. Il arrive enfin pour combler le poste qui est quand même sinistré depuis le départ de Dani Alves en 2016. Donc c'est quand même 5 saisons qu'on rame comme des pendus pour animer ce flanc droit. Alors du coup, quel est le problème? C'est quoi? C'est l'animation, c'est le schéma, c'est les hommes? Pourquoi on n'y arrive pas à être compétitif sur ce côté droit? Eyol.
À mon avis, c'est parce que c'est très compliqué de jouer derrière Messi. Il faut vraiment un joueur d'élite comme l'était Alves. Et je trouve que le Barça et même un petit peu tout le monde en général a beaucoup sous-estimé l'impact qu'avait Alves. Et aujourd'hui, on galère encore. Et si vraiment on veut avoir un latéral qui tourne bien au Barça, il faut vraiment taper dans le top 3 mondial. Quoi. Et encore.
Busquetos.
Clairement, le problème qu'on a, c'est que on a toujours ce fantôme d'Alves qui rôde et on a besoin d'un joueur clairement autosuffisant sur le côté droit, ce qu'était Alves, ce que n'est pas Semedo, du moins offensivement. Il n'arrive pas à créer ses propres occasions avec un dribble, avec une passe, en combinant. Il n'y arrive pas. C'est compliqué pour nous parce qu'on a besoin de ce genre de joueur pour jouer justement derrière Messi. Et lui, il n'y arrive pas. C'est dommage, quoi.
Parce que Semedo, c'est quand même un joueur très frustrant, puisqu'on a quand même l'impression qu'il est capable de faire quelques trucs. On l'a vu faire des choses assez positives, mais on a quand même l'impression qu'il joue avec le frein à main. C'est quand même quelqu'un qui a un but et 6 passes décisives en 3 ans en Liga, avec quand même un temps de jeu qui est assez conséquent. C'est quand même beaucoup trop de limites. Donc en fait, on a Messi qui dézone beaucoup, même s'il peut se trouver sur le côté droit, mais ce n'est pas vraiment pour animer. Il repique beaucoup dans l'axe. Ça n'aide pas vraiment les latéraux à produire du jeu. En revanche, on a vu un Dembélé-Semedo assez intéressant. L'émulsion des deux a quand même généré quelque chose. Est-ce que le problème est soluble avec le schéma tactique qu'on a aujourd'hui, quel que soit le joueur qu'on prendra finalement?
Bah, c'est-à-dire que Semedo et Dembélé, ils sont bons tous les soirs de pleine lune, donc c'est un petit peu compliqué de les voir ensemble. Et puis, c'est pas extraordinaire non plus, quoi.
Non, mais ça a montré quand même que Semedo pouvait être dans la combinaison un petit peu plus volontaire que là, perdu tout seul dans son côté. Quoi.
Bah, c'est pas l'envie qui manque, en fait. On voit qu'il veut faire des choses. Hein. Il y a eu quelques matchs où c'était un petit peu mieux là récemment, mais c'est quand même insuffisant. Quoi. On s'en mord les doigts à chaque fois, et puis finalement, la solution, c'est encore et toujours revenir à Sergio Roberto. C'est même pas son poste, mais finalement, on est incapable de trouver mieux. Et puis même, quand on parle de qui est-ce qu'on pourrait recruter pour jouer ce poste de latéral droit, on parle de Cancelo, on parlait de Bellerin à l'époque. Si c'était pas Semedo, c'était Bellerin. Franchement, pas très très intéressant. Moi, à part Kimmich, qui serait vraiment un super joueur, mais bon, faudra y mettre le prix. J'ai pas vraiment d'idée. Qui c'est qu'on pourrait recruter pour jouer ce rôle, quoi.
Surtout que les latéraux aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils pensent d'abord à attaquer avant de défendre. Ce qui fait que les joueurs aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'ils sont plus faits pour jouer piston. Et pour ça, jouer piston, il va falloir changer des choses, notamment tactiquement, et je crois pas que c'est à l'ordre du jour.
Parce que la nouvelle formule avec Messi dans l'axe, enfin la nouvelle formule, on va voir si elle s'étale dans le temps, hein, mais bon, pour l'instant, ça fait quand même, depuis Villarreal, ce fameux match, qu'il est quand même un peu recentré en soutien de Suarez et Griezmann. Est-ce que c'est pas justement l'occasion pour libérer enfin ce côté droit, pour jouer un peu plus piston et avoir tout le côté pour s'exprimer?
Bah, je trouve qu'on a validé un petit peu vite quand même le nouveau Barça qui joue bien avec les offensifs beaucoup plus axiaux. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé la bonne formule vraiment. Hein. C'est faut pas s'enflammer. Je sais pas si ça va durer dans le temps. Je sais pas si le Barça compte jouer comme ça. Et même si c'est le cas, on n'avait pas plus de monde sur le côté droit au final. Le match contre Villarreal, Semedo, c'est pas un match extraordinaire non plus, quoi.
Parce qu'on est quand même passé d'une paire de latéraux Alves-Adriano à Semedo-Roberto. C'est quand même une grosse, grosse descente de gamme. C'est vraiment trop, trop, trop juste pour jouer au Barça. Mais le marché, comme vous l'avez bien souligné, il n'est pas terrible quand même. Quand même très, très peu d'équipes qui sont fournies en bons latéraux. Je crois qu'on peut en toucher 3 ou 4, et encore. Beaucoup de grosses équipes comme City, Paris, la Juve, qui ne sont pas non plus super bien fournies. Est-ce que c'est vraiment un poste qui serait perdu pour la science chez nous et qu'il faudrait imaginer complètement autre chose ?
Personnellement, aussi, quand on regarde le marché, on voit que les top latéraux aujourd'hui, c'est des milieux de terrain reconvertis sur le côté, parce que justement, le milieu de terrain, il y a tellement de pressing que la seule zone encore libre où ils peuvent exprimer leur qualité de passe et vision de jeu, c'est le poste de latéral. Alexander Arnold, c'est un milieu de terrain de formation, sauf erreur, et Kimmich aussi.
Les deux sont formés au milieu de terrain. Il y en a un autre qui est formé au milieu de terrain et qui joue latéral. Mais on l'a déjà.
Exactement. Et c'est pour ça que lorsque je vois des discussions où on me dit oui, Roberto, c'est pas son poste, les tops qui sont en Europe actuellement, c'est pas non plus des latéraux de formation. Et quand on voit notre latéral de formation à droite, ça fait peur. Du coup, moi, je préfère mettre un milieu de terrain comme Roberto qui apporte plus que le latéral de métier. Au bout d'un moment, le métier, c'est bien, mais c'est les performances qui comptent. Et force de constater que la qualité du joueur, si on parle d'un poste précis, moi, je trouve que Roberto a plus sa place pour jouer latéral droit au Barça que Semedo.
On est quand même d'accord pour dire que c'est un poste sinistré. On est à la fois incapable d'animer ce côté droit et à la fois incapable de recruter et de placer un joueur compétent sur ce côté droit. On a les deux problèmes, en fait.
Bah, c'est un petit peu ça, oui. On ne sait pas qui prendre sur ce poste de latéral droit. Et puis, en plus, on ne le met pas dans les meilleures conditions avec un côté droit qui est un petit peu délaissé. Donc, peut-être que la solution, c'est de prendre, je sais pas, un joueur plus défensif ou un joueur qui participe à la construction comme le fait Sergio Roberto. C'est ce que je dis toujours avec Sergio Roberto, hein, c'est ok, c'est pas forcément le meilleur joueur pour jouer latéral, mais trouvez-moi quelqu'un qui joue mieux que lui, quoi. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé mieux.
Bah, les entraîneurs non plus, visiblement, puisque ça échange beaucoup entre les deux, et que après 3 ans, troisième saison Semedo, il est toujours pas titulaire indiscutable, hein, il est toujours pas installé. On va passer de l'autre côté du terrain avec son pendant, le fameux Jordi Alba. Du coup, on va essayer de comparer les deux et comprendre pourquoi du côté d'Alba, alors dans une version sublimée du joueur, parce que c'est pas toujours très très bon Alba en ce moment, mais ça marche quand même mieux. Pourquoi ça marche mieux à gauche Alba ?
Ouais, Alba, c'est il a déjà un passif important au Barça, et il s'entendait très bien avec Messi, qui a quand même pas mal aidé. Après, en défense, hein, ça n'a jamais été le crack absolu. Et là, cette année, il a quand même une saison très très compliquée. Pourtant, il n'était pas trop inquiété par la concurrence de Junior Firpo, mais il a eu beaucoup de pépins physiques, il a eu du mal à être décisif, hein, sur ses montées. Il y avait pas mal de matchs où il était un petit peu perdu, et je me demande si c'est pas aussi en partie à cause de Griezmann, qui ne savait pas lui non plus se positionner. Il n'y a jamais eu de combinaison entre les deux, globalement. Je pense que Jordi Alba a du mal cette saison à trouver ses marques. Il avait bien repris à la reprise après le Covid. Là, il a fait un très bon premier match, si je me souviens bien. Là, c'est un petit peu retombé, quoi. C'est toujours très brouillon. Enfin, moi, je ne le trouve pas spécialement meilleur que Semedo, Alba, hein, cette année.
Après, Alba, on sait qu'il est un peu comme l'équipe, à l'image de l'équipe, c'est un peu le baromètre. C'est-à-dire, quand l'équipe est bonne, c'est-à-dire bien structurée, avec une cohérence, il est très bon, mais par contre, c'est pas un joueur qui va tirer l'équipe vers le haut, comme pourrait le faire un Marcelo au Real, par exemple. Donc, quand ça va pas trop, il prend le ballon et puis il décide de ce qu'il faut qu'il fasse sur le côté. Donc du coup, son seul avantage, finalement, ça serait quoi ? Ça serait sa complémentarité avec Messi ? C'est ça, Busquets ?
Ben, l'axe Alba-Messi, ça a quand même été une force sur laquelle Ernesto Valverde s'est appuyé pour aussi construire ses attaques. Alba, l'année passée, il fait une plutôt bonne saison, mais le problème, c'est qu'il joue mal le pire match, enfin, il joue mal le match...
Contre Liverpool.
Ouais, face à Liverpool. Et du coup, toute sa saison, je pense qu'on la juge pas mal par ce prisme. Et puis cette année, peut-être ça lui a fait du mal, cet échec, où on a vu dans le reportage sur Rakuten TV, Alba pleurer à la mi-temps. Je pense que ça lui a fait pas mal de mal, cette défaite contre Liverpool. Il est revenu, et puis cette saison, franchement, je l'ai pas vraiment reconnu. Il était souvent blessé. Et quand un joueur est souvent blessé, c'est un mauvais signe aussi. Ça montre aussi que dans sa tête, il n'est pas forcément bien.
Beaucoup reproché d'avoir un seul coup spécial en fait, c'est-à-dire que je vais jusqu'à la ligne de sortie de but et je cherche Messi en retrait. Mais est-ce que c'est vraiment si terrible que ça? Parce que c'est quand même ce qu'on demande aux latéraux, hein, c'est-à-dire le plus loin possible sur le terrain et centrer en retrait, c'est un peu l'arme fatale. Quelque chose qui est terriblement reproché, est-ce que c'est pas un petit peu injuste de condamner un petit peu cette arme fatale qui est la liaison Messi-Alba?
Pour moi, c'est injuste, oui, parce que tant que ça marche, quelqu'un fait tout le temps le même geste, mais ça marche tout le temps. Pourquoi tu veux lui reprocher de le faire?
Ça marche un peu moins maintenant.
Ouais, mais ça, après, c'est comme Eyal Fur l'a dit, c'est aussi parce que maintenant il est associé à un autre joueur qui est perdu sur son poste et qui ne combine pas autant que pouvaient le faire les autres sur son côté, même s'ils n'étaient pas vraiment fameux. Coutinho, il lançait quand même Jordi Alba, alors que Griezmann, il le lance beaucoup moins.
Bah, c'est-à-dire que Griezmann, il essaye de faire des appels comme il peut. Donc c'est pas lui qui va aider Alba, et derrière le milieu qui joue axe gauche, il l'aide pas forcément non plus. Messi est un petit peu plus loin de la surface cette année, j'ai l'impression. Donc ça marche moins bien. Mais après, Alba pourra très bien trouver d'autres chemins de passe possibles. Mais comme tu le disais, moi je pense pas que ce soit vraiment un gros problème Alba. Hein, si on arrivait à trouver un gros latéral droit, Alba serait pas un problème, je pense, pour l'équipe. C'est correct, mais sans plus, on va dire.
Bon, on va pas toujours se flageller quand même, parce que là, depuis deux épisodes et demi, on est en train de dire beaucoup de mal de notre équipe. On va pouvoir passer quand même à haute satisfaction de la saison, notamment ben, Ter Stegen, colossal sur sa ligne, excellent au pied. C'est le libéro et le premier relanceur du club. Je rappelle qu'on a acheté 12 millions à Mönchengladbach en 2014. Moi, j'ai une question un petit peu provoque. Ben, est-ce que c'est tout simplement le meilleur gardien qu'on ait jamais eu?
Disons que Ter Stegen, il a, je pense que son pic, c'est le plus haut qu'on ait eu. Après, si on me dit demain Busquets, tu dois faire un 11 de l'histoire du FC Barcelone, je mets Victor Valdés.
Vraiment en talent, enfin en perf pur, hein, pas en légende, tout ça, ni en palmarès.
En
Vraiment.
perf pure, ce qu'il a fait sur ses saisons en tant que titulaire, en termes de régularité, c'est le gardien qui a fait gagner, je pense, le plus de matchs au Barça. C'était le gardien le plus décisif dans le cours d'une saison, parce que il faut dire qu'il a été souvent mis à contribution. Mais en termes d'apport au club, si on me dit demain tu fais un 11 historique du FC Barcelone, je mets quand même Victor Valdés à la place de Ter Stegen.
Ah ouais, de toute façon, ça se joue entre les deux, hein. On n'a pas eu beaucoup de chance en dehors de ces deux-là. C'est marrant parce que j'avais eu ce débat avec les amis de la Peña de Paris, savoir qui entre Valdés et Ter Stegen était le meilleur gardien de l'histoire du Barça. Parce que c'est dur de prendre du recul, hein, sur Ter Stegen, hein. Il a encore beaucoup à nous apporter. Je pense que Valdés, c'était plus un gardien de finale. Toutes les finales que Valdés a faites était extraordinaire, donc c'était un gardien de coups. Ter Stegen, il a cette régularité, et le nombre de fois où il nous a sauvés, c'est assez impressionnant. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que quand on regarde les stats de Ter Stegen, elles sont complètement anecdotiques. Lui, comme Oblak, par exemple, je me rappelle avoir vu une stat où il était dans le ventre mou des gardiens de Liga au niveau du nombre d'arrêts. Pourtant, moi j'ai l'impression qu'il nous sauve à tous les matchs, mais il encaissait beaucoup de buts par rapport à d'autres gardiens dans des clubs un petit peu moins huppés. Et pourtant, moi je suis team Ter Stegen jusqu'à la mort, hein. C'est vraiment le gardien idéal. Il est professionnel, il est décisif, il est vachement impliqué dans le club. Il n'y a jamais de conflit avec lui. Enfin, c'est vraiment la perfection. Moi, je le garde jusqu'au bout, hein, Ter Stegen.
D'autant plus qu'on s'inscrit quand même dans un gardien hyper moderne, c'est-à-dire que contrairement à Valdés, qui était quand même pas vraiment réputé pour ça, on a un gardien qui joue excessivement bien au pied, quoi. C'est quelqu'un qui touche 43 ballons par match, et surtout, il a un très peu de déchets, et c'est vraiment le premier relanceur, c'est vraiment quelque chose, un poste inédit. Du coup, la comparaison, peut-être, elle s'arrêtera là avec Valdés, quoi. Mais alors, on ne parle pas, évidemment, du Truel, des Bonanno et autres curiosités qu'on a eues dans notre club.
Rouge-tout.
Ah oui, oui, mais là, si on commence à faire toutes les buses, on n'a pas fini. En gros, on aura dans notre histoire Zubizarreta, Victor Valdés et Ter Stegen. On va s'en contenter, je crois. Si on pouvait lui attribuer un défaut quand même, est-ce que ça ne serait pas ses sorties aériennes? J'ai l'impression qu'il n'est pas hyper, hyper serein sur cet exercice-là.
C'est sûr que c'est pas sa spécialité, mais est-ce que ça nous a tant pénalisé que ça par le passé? J'ai pas l'impression.
Moi, j'ai pas le souvenir d'une grosse boulette qui ait conduit à un but, par exemple, ça se trouve, c'est vrai. Mousquetos.
J'ai la peine d'avoir des défauts en Ter Stegen. Éventuellement, comment il place son mur l'autre soir, mais il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, quoi. Il fait le boulot, il joue bien au pied.
C'est notre meilleur recrue de la décennie. Je vous fais rapide, hein, le match, il est avec Suarez, en fait.
Je sais pas, parce qu'avec... Non, c'est trop dur à choisir si je choisis entre papa et maman.
On n'est pas obligé de choisir toujours, hein. On n'est pas obligé de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Autre grosse satisfaction, et ça c'est un peu plus inattendu parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude non plus, c'est la défense centrale. On a quand même un Piqué qui est dans une forme olympique et surtout son comparse, l'anglais, qui est quand même très discret, quasiment anonyme quand il arrive et même toujours anonyme, hein, je pense que... C'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, mais pourtant il fait des prestations XXL à chaque fois. On peut vraiment dire qu'on a une très très bonne défense centrale, non?
Oui, et c'est appréciable quand on voit ce qu'on demande à des défenseurs centraux, parce que c'est difficile pour un défenseur central de jouer comme on le veut au Barça. Il faut quand même avoir une capacité de relance certaine et être totalement à l'aise avec ses pieds sous le pressing adverse. Et... l'anglais, c'est vraiment une bonne recrue. Je le connaissais pas vraiment avant qu'il arrive. Et même si Umtiti a un genou dans la boîte à gants, il s'est imposé super vite, l'anglais. Et c'est tout à son honneur parce que ça montre, quoi qu'on en dise, que le statut, tu le gagnes sur le terrain. Et le coach, il va pas réfléchir à deux fois, il met le meilleur. Et l'anglais, il est meilleur. L'anglais, il mérite. L'anglais, il joue.
Ouais, moi, ça, il m'a pas mal étonné, l'anglais. Enfin, quand il arrive au Barça, je me disais, c'est pas mal, hein, ça. Un défenseur qui a de l'expérience en Liga, il va être le second Umtiti et ça va bien se passer. On en aura pour un moment. Et finalement, il s'est imposé parce que il s'est rendu indispensable au club. Et en plus, il a une complémentarité parfaite avec Piqué, un gaucher, un droitier. Il n'y a pas de débat en fait aujourd'hui sur la charnière centrale du Barça. C'est Piqué l'anglais et puis c'est tout.
Et j'aime bien aussi le fait comme l'anglais s'exprime dans les médias par rapport aussi au fait d'être au Barça. Il dit ma concurrence avec Umtiti, je l'accepte quoi. Et moi je vais tout faire pour être meilleur, mais j'apprécie ça, mais puis je vais me battre quoi. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est son attitude, il demande rien, mais il peut tout avoir, et c'est ça que j'aime bien.
Piqué a 33 ans, il réalise une de ses meilleures saisons. Comment vous expliquez que Piqué est sous-coté comme ça? Comment on peut expliquer que quelqu'un qui a presque 10 ans de très haut niveau, qui a tout gagné, soit aussi peu valorisé en dehors de notre club?
Piqué, il y a plusieurs trucs. Il y a déjà le fait que il est très présent dans le média et donc forcément on va pas le louper quand il y a un problème. Et puis c'est un défenseur qui est quand même lent, qui en général quand il se fait avoir sur un but, il se ridiculise un peu, il finit le cul par terre. Enfin, c'est un petit peu triste. Et du coup, on a tendance à se souvenir plus de ses bourdes que des matchs impeccables où il prend tous les ballons de la tête et il annihile tous les offensifs. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça en fait. Piqué, quand il se loupe vraiment, et ça fait la une pendant une semaine. Et quand il fait des gros matchs, ça se voit pas parce qu'on a l'impression que c'est normal. C'est toujours un petit peu un problème au Barça. On sous-estime en général le rôle de défenseur central, qui est très très dur au Barça. C'est faut vraiment être impeccable.
Faut dire aussi que c'est un bon client. Le mec, il est comme l'a dit Ayol, il est souvent dans les médias, il est chambreur. Du coup, un mec qui est autant sûr de lui à la limite de l'arrogance. Les gens, ils aiment bien le voir tomber. Du coup, quand il se rate, il se fait démolir. Après, Piqué aussi, c'est ce que j'appelle aussi, c'est un défenseur un peu pour geek. C'est-à-dire que ce qu'il fait bien, ça se voit pas forcément, parce que faut vraiment avoir l'œil sur les interventions qu'il fait, sur le placement qu'il a. C'est pas un défenseur comme Ramos qui met trois coups de coude et puis qui fait une tête rageuse au milieu de terrain pour gagner un duel. Piqué, c'est plus fin. Piqué, c'est un mec dans la surface. Il sait où la balle va arriver quand le mec va centrer. Il est souvent sur ses ballons. Et ça, pour les défenseurs, c'est normal. Mais au Barça, c'est tout le temps lui qui les chope, ses ballons. Et du coup, ça rend la chose totalement banale de le voir faire ça. Et ses grandes saisons sont sous-estimées, je trouve aussi.
Alors, est-ce que finalement, vous êtes d'accord avec moi quand je dis que le défaut de la défense centrale, c'est qu'elle ne marque pas assez ? C'est quelque chose qui peut nous pénaliser dans bien des situations dans la saison.
C'est-à-dire que vu comment on exploite nos latéraux, c'est un petit peu difficile d'aller trouver des centres pour les défenseurs centraux. Moi, ça ne me gêne pas particulièrement que les défenseurs centraux ne marquent pas beaucoup. C'est parce que j'attends d'eux. Pour moi, c'est vraiment pas une stat que je vais regarder pour eux.
Non, mais par exemple, à l'image d'un... Alors, je vais reprendre Sergio Ramos. C'est vrai qu'on a quand même l'exemple d'un défenseur qui fait quand même beaucoup offensivement, sans aller jusqu'à marquer 12 buts dans une saison comme il le fait en ce moment. Un petit coup de tête sur un corner, sur un coup de pied arrêté, c'est quelque chose qui permet quand même de gagner des points, ou en tout cas pas en perdre. Et je sais pas, je n'ai pas regardé les stats, mais je pense que piquer l'anglais, ça marque moins de 10 buts, toutes compétitions confondues, dans une saison. Quoi. C'est une petite arme en moins.
En coup de pied arrêté, on joue très peu de centre aussi. Hein. Enfin, déjà, au niveau des corners, je trouve que les corners de Messi ne sont pas si extraordinaires que ça. Ce Rakitic non plus. Les coups francs, on va en jouer 4 sur 5 sur des frappes de Messi. Donc, je pense qu'ils ont peu d'occasions
de
marquer au final.
Surtout qu'une équipe comme le Real Madrid, parce que tu prends l'exemple de Ramos, c'est une équipe quand même qui est bâtie sur... la capacité à des joueurs de pouvoir centrer. Et du coup, tu mets un Ramos qui est un excellent joueur de tête là-dedans, c'est un plus. Nous, notre équipe, nos latéraux, on l'a dit précédemment, centrer sans vouloir le faire offense, c'est pas trop leur truc. Du coup, comme joueur de tête, on a nos centraux, éventuellement Suarez et peut-être Griezmann. Ce qui fait que...
Évidemment.
Mais on va pas beaucoup centrer quand même. On centre pas tant que ça par match. En tout cas, des centres en hauteur. Si on centre, c'est rater pour trouver un mec qui arrive lancé dans la surface. Mais sinon, on fait pas tant de centres aériens que ça.
Autre gros problème dans l'effectif, c'est que nos défenseurs, eh ben, ils n'ont pas de remplaçants. Ou alors, ils sont trop faibles. C'est-à-dire qu'en défense centrale, on a Umtiti et Araújo. À gauche, on a Firpo. À droite, c'est Sergi Roberto. Umtiti a sacrifié son genou pour une Coupe du Monde. Est-ce qu'il est possible d'être sur le long terme, sur toutes les compétitions, performant avec une profondeur de banc si basse, quoi ?
Pour moi, la priorité quand même du prochain mercato, c'est de pouvoir avoir un troisième central solide qui peut jouer des matchs et qui peut aussi faire pallier aux éventuelles suspensions de Piqué. Tout dépend ce qu'on fait d'Umtiti, mais Umtiti, je pense que s'il y a une offre pour lui au club, on s'en séparera. Mais pour moi, la priorité, c'est vraiment de prendre un défenseur central aussi.
Je suis pas trop d'accord sur ce point-là, parce que moi, j'estime que avant de chercher des remplaçants pour les centraux, il faudra peut-être chercher des titulaires pour les autres postes, notamment celui de latéral droit, et puis on avait parlé des milieux aussi. C'est sûr que c'est un petit peu juste, hein, si Piqué se blesse, on est dans la merde, clairement. Moi, j'ai encore un petit peu d'espoir pour Umtiti quand même, parce que il a été tellement bon avant sa blessure en 2018 que j'ai toujours le secret espoir qu'il arrive à renaître de ses cendres. Par contre, pour l'axe droit, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Araújo, il est prometteur, mais c'est encore un petit peu juste. Vraiment, je le répète, mais pour jouer défenseur au Barça, c'est pas fait pour les jeunes joueurs. Hein. J'ai peu d'exemples de jeunes joueurs qui ont réussi à s'imposer chez nous.
C'est Piqué le seul.
Ouais, c'est ça. Puis il y a eu quelques fulgurances, mais ça, sans jamais s'installer dans la longueur. Et est-ce que la solution, ce serait pas plutôt d'aller chercher des profils type, ça va peut-être vous faire rire un peu, mais Vermaelen, Mathieu, c'était de très bons remplaçants pour jouer dans l'axe pour moi.
Parce que finalement, le problème, c'est que les backups, j'ai regardé, je faisais une petite revue d'effectifs, quand on voit ceux qui sont censés suppléer les titulaires dans les gros clubs, bah, c'est pas fou, quoi. Les centraux à City, c'est Fernandinho, Otamendi, le petit Eric Garcia, mais c'est souvent un milieu qui revient pour jouer central. Le Real, c'est Militao, Nacho. Liverpool, ben Milner, il joue souvent arrière-droit à la place d'Arnold quand il n'est pas là. Il y a beaucoup d'équipes qui galèrent quand même à avoir une vraie bonne défense bis pour pouvoir être compétitif sur le long terme, quoi. Donc, est-ce que nous, on a juste les problèmes des autres, en fait ?
Oui, et puis c'est dur d'aller claquer 80 millions sur un De Ligt pour lui faire jouer 10 matchs par an. C'est pour ça que, à mon avis, un profil de joueur expérimenté, ce serait pas mal. On parlait récemment de Pau Torres, là, qui joue à Villarreal, d'ailleurs, qui nous a mis un petit but déjà.
Il se vend, là, déjà. Il se place. Ouais,
ça doit être ça.
Moi, je le trouve très bon, demeurant, hein, Pau Torres.
Il fait une très bonne saison, mais c'est que sa première saison. Donc, c'est dangereux, en fait, de pouvoir compter sur lui.
Est-ce que le problème du foot moderne, c'est que personne ne veut être remplaçant, bon, ça peut se comprendre. Et c'est encore plus difficile quand on sait qu'un défenseur central, il n'y a pas de rotation, quoi. Donc, est-ce que c'est un problème insoluble finalement et qu'on est obligé de galérer, comme tout le monde, à avoir une défense centrale bis, quoi.
Après, pendant qu'Ayol parlait, j'ai pensé à quelque chose. C'est que, pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'il penserait que si tout d'un coup, on garde à peu près le même effectif, Piqué se blesse, est-ce que tu trouverais pertinent de mettre Frenkie de Jong pour quelques matchs à la place de Piqué? Tu trouverais ça pertinent ou ça serait le gâcher en sachant qu'on aurait Pjanic et Busquets qui pourraient jouer en sentinelle?
Non, vraiment, de Jong, il n'a pas les capacités pour jouer central dans le rôle de Piqué. Hein. Ça, clairement, c'est pas le cas. Alors, il a joué une demi-saison hein, central. À l'Ajax, mais c'était un petit peu la fête du slip, quoi. Vu comment joue l'Ajax et le niveau de la Eredivisie, c'est très très loin du niveau de ce qu'il y a en Ligue 1. Faut pas compter sur lui. La seule option pour moi pour mettre De Jong central, ce serait dans une défense à 3, où ce serait le mec qui joue à moitié Regista, à moitié dans la défense centrale, mais dans une défense à 2, c'est mort de chez mort, De Jong.
Voilà, tu me fais une transition toute faite, merci beaucoup. Est-ce que on peut envisager aujourd'hui, puisque de toute façon les latéraux, on a beaucoup de mal à les recruter, si on peut imaginer un autre modèle de défense? Et on pense évidemment à l'arrivée de Setién lors du début de son mandat. Il a introduit une défense à 3 avec des pistons. C'est quelque chose qui se démocratise beaucoup, hein. On pense à Dortmund, à l'Inter, à l'Atalanta ou à Arsenal. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait importer à terme chez nous compte tenu des difficultés défensives qu'on a?
Moi, j'y crois pas trop. N'importe quel modèle de défense impair, il faut avoir des super latéraux. Et justement, on en a parlé assez longuement. C'est notre problème actuellement. Donc, tant qu'on n'aura pas Dani Alves et Roberto Carlos sur les côtés, moi, je suis contre.
Alors, à ceci près, si on prend une défense à 3, les personnes qui sont sur les côtés, c'est pas vraiment le même profil. On pourrait prendre des joueurs beaucoup plus offensifs, qui va vraiment tout droit et qui explose un peu tout sur le côté, pour être pertinent dans une défense à 3, alors qu'il ne serait pas du tout dans une défense à 4.
Après, on entre dans le débat éternel de si un coach arrive et dit « on joue comme ça », bah là, le club, il ferait quand même des efforts pour lui donner ce qu'il demande. Là, les latéraux, ils ne sont pas forcément adaptés, quoique je pense que Alba, on le met piston dans une équipe à Dortmund, je pense quand même qu'il ferait des saisons très bonnes. Le problème, c'est Semedo et l'arrière-droit. Mais si on recrute un piston et qu'on passe en défense à 3 avec un bon coach, ça pourrait être intéressant, mais le problème, c'est que dans ma phrase, il y avait beaucoup de si. Justement, c'est la limite de ce type de défense, quoi.
C'est presque ce qu'on attendait de Setién à son arrivée. Hein. Quand ouais. Il nous avait promis hein, de jouer en défense à 3, en football révolutionnaire, et finalement, ça a tenu une mi-temps. Moi, j'ai toujours du mal à voir ce genre de tactique se réaliser, surtout avec l'effectif qu'on a et avec les coachs qu'on a. J'arrive pas à m'imaginer. Hein.
Surtout qu'on joue sans ailier, donc pour moi, si on joue sans ailier, des pistons, ça fait sens totalement.
C'est peut-être plus facile à trouver un piston qu'un ailier finalement.
Bah, y a Emerson du Betis hein, qui nous appartient, mais bon, c'est un petit peu léger quand même.
Firpo était bon dans ce. Enfin, il était bon dans le contexte Betis, mais il jouait comme ça.
Mais est-ce que finalement on a tant besoin que ça d'une bonne défense? Est-ce qu'on ne pourrait pas gagner 4-3 tous nos matchs? C'est un peu l'essence du football total, c'est un peu le Barça, c'est un peu Cruyff, c'est on attaque, on va prendre des buts parce qu'on va attaquer. Mais finalement, la meilleure défense, c'est l'attaque. Le poncif, il existe.
Oh, c'est à toi, Busquetos. Je passe.
Alors, gagner nos matchs 4-3, je dirais que l'idée peut être bonne, mais il faut déjà qu'on arrive à mettre 4 buts. Et ça, c'est pas gagné. Il suffit que l'équipe en face se regroupe et on peine contre les blocs bas. Se prendre 3 buts, vu comment on conserve la balle, c'est compliqué. Mais en mettre 4, nous, vu comment on attaque, ça l'est encore plus. Du coup, moi, je préfère me baser sur une bonne assise défensive, un truc cohérent, parce que c'est notre bonne défense qui nous permet aussi de, si tout d'un coup on trouve des meilleurs circuits de passe, de partir en transition et puis de pouvoir marquer.
Parce que finalement, la défense, c'est aussi une composante tactique aujourd'hui. La relance, les circuits de passe qui démarrent du gardien, avec les nouvelles règles, surtout des sorties en 6 mètres. C'est une arme essentielle de la mise en place tactique. Mais je sais pas, moi je vois qu'une équipe comme l'Atalanta, là, c'est assez sexy. Ça met 5 buts, ça en prend 3, ça attaque de partout. Peut-être que notre révolution, elle peut passer par là. C'est-à-dire qu'être un petit peu moins frileux, un peu plus impertinent. Dans le jeu et peut-être essayer de revivre les glorieuses années
Ah,
de
mais
nos
moi,
aînés.
pour moi, là, tu parles pas de la défense, tu parles du milieu qui devrait être beaucoup plus créatif que ça. Je pense que ça serait dommage de sacrifier la charnière centrale, qui est le truc qui marche le mieux chez nous, à la limite. Moi aussi, je suis pour avoir une bonne assise défensive, hein. On va pas jouer en football total, ça n'existe plus et ça n'existera plus, je pense. Moi, je veux le garder quand même, ce bloc défensif, ce qui veut pas dire jouer en Catenaccio non plus, hein, mais
On
en
va pas faire
disant que là.
revenir Elanio Herrera.
Ouais, c'est ça. La défense, c'est l'attaque, mais l'attaque, ça passe aussi par une bonne assise défensive, un milieu qui marche bien, et puis des attaquants qui bougent.
Bon, on gagnera pas la Ligue des Champions, Jean les foufous, quoi, c'est ça que vous me dites.
Ouais, cette année, pourquoi pas, hein, ça va être tellement la fête du slip, ça va être un tournoi d'été à Lisbonne, ça va être très aléatoire, donc pourquoi pas, hein, sur un malentendu. Je crois que je l'avais déjà dit au dernier podcast. Pour moi, ça va être, on va tirer les dés et puis peut-être qu'on va tirer un 6, on ne sait pas.
En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que cet effectif, en l'état, est assez mal construit. Un 11 ou un 13 de qualité est cohérent, mais un banc insuffisant, qui ne permet pas de rotation crédible et surtout n'offre pas vraiment d'alternative tactique, ni d'ébullition suffisante pour tirer ce groupe vers le haut. Donc, attendons-nous quand même à du mouvement cet été. Et l'équipe, je pense, a besoin d'élever son niveau et un petit peu se renouveler. Eh bien, merci les amis. À présent, on a fait le tour de notre effectif. On a parlé de l'attaque, on a parlé de l'animation offensive avec Griezmann, on a parlé du milieu de terrain avec la défection et l'étrange trajectoire d'Arthur. On vient de parler de la défense avec le poste maudit d'arrière droit. Au prochain épisode, on va donc parler de Quique Setién, du staff technique qui est chargé de chapeauter tout ça. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Merci Eyal Four et merci Busquetos de m'avoir accompagné pour cette nouvelle émission. C'était Total Camp.